Claude, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Les absurdités d'un examen, c'est dans l'opinion.
Un examen que doivent désormais passer les chauffeurs de VTC. S'ils veulent exercer leur profession, ils devront avoir en poche cet examen au 1er janvier prochain. Un examen dont l'opinion révèle la nature délirante. Quelques exemples de questions soumises aux candidats en septembre dernier. Nicolas, quel statut du conjoint du chef d'entreprise ne convient pas à l'entreprise individuelle? Nicolas sèche. Autre question. Au 1er janvier 2016, j'achète un véhicule 20 000 euros hors taxe, amortissable sur 4 ans. Un ordinateur portable 600 euros, amortissable sur 3 ans. Quel sera le montant de la dotation d'amortissement déductible sur les charges d'entreprise en 2017? On a posé cette question à des jeunes gens qui voulaient devenir chauffeurs VTC en septembre. Il y a eu, dit l'opinion, 1% de réussite à ce questionnaire dans le Val-d'Oise, 8% en Seine-Saint-Denis, et c'est une véritable brutalité. C'est comme si on avait voulu nous saquer, c'est ce que disait un candidat malheureux dans Le Parisien la semaine dernière. C'est Le Parisien qui a soulevé lièvre, l'opinion reprend le dossier et accuse. Ce sont des jeunes peu qualifiés qu'on élimine, des jeunes qui voulaient créer leur activité, des jeunes qu'Emmanuel Macron avait encouragés, mais que l'on sacrifie pour, je cite, « protéger la rente des taxis ». 10 000 jeunes ne pourront pas devenir chauffeurs VTC, dit l'opinion, ou devront même abandonner leur profession et pointer au chômage. Ce dossier est terrible et en même temps, il est passionnant idéologiquement parce qu'il dénonce, Nicolas, une brutalité sociale, mais dans les mots du libéralisme économique, c'est la réglementation, la bureaucratie, le malthusianisme, le lobby des taxis qui sont responsables de ce que l'opinion appelle un immense plan social. Voilà une de nos crises, la société
bloquée.
Et il en est d'autres. Dans un autre style, Les Jours racontent, c'est sur Internet, un autre plan social chez un géant endetté que cette fois la concurrence assiège. C'est le plan mis en œuvre à SFR au cœur du groupe Altis dont l'action dévisse. 5000 postes ont été supprimés, un tiers des effectifs dans un silence fascinant. Et Le Jour raconte cet univers où l'on appelle New Deal, nouvelle donne, un dégraissage social et où un patron purge les effectifs, Patrick Drahi, mais il envoie des mails à ses salariés signé de son seul prénom. La crise n'interdit pas l'ironie.
Et un autre patron, Claude, est dans Les Échos.
À la barbe de 3 jours, ce patron est aux yeux bleus qui vous transpercent de douceur. Il se nomme Emmanuel Faber. Il prend aujourd'hui la direction de Danone, 47 milliards d'euros en bourse, 100 000 salariés, numéro 1 mondial des yaourts et aliments végétaux. Et le magazine des Échos le célèbre. Faber, je cite, est un homme psychologiquement, physiquement et intellectuellement sous tension. Un grimpeur attiré par l'absolu du ciel. Un homme qui, savez-vous, aimait jadis se retirer dans une cabane perchée dans un arbre chez lui à Ville d'Avray. Et surtout un Janus, donc un dieu à double visage, patron d'un géant industriel, mais qui condamne le capitalisme rapace et cultive une amitié avec le philosophe écolo Pierre Rabhi. Oublions maintenant, Nicolas, mon ironie facile et le sourire, parce que la dialectique, en réalité, évite aux Échos ce piège classique de la presse économique quand elle rencontre des patrons, la géographie enamourée. Idéologiquement encore, c'est passionnant ce numéro des Échos magazine. Outre Faber, on y vante Lorraine Powell Jobs, c'est la veuve de Steve, l'inventeur d'Apple. Elle combat Trump et défend les jeunes sans-papiers. On nous présente Albilio Diniz, un milliardaire brésilien, octogénaire et sportif, actionnaire de Carrefour, à l'indice de masse graisseuse de 6,5%, c'est beaucoup mieux que moi, et qui donne des conseils de bonne vie à ses contemporains. Les Échos nous proposent le salut par les patrons, mais notre Emmanuel Faber de Danone aux yeux bleus est d'une autre trempe, pas seulement un imprécateur, il pense aussi sauver Danone par la vertu, l'écologie, la relocalisation, et il l'explique dans une interview aux Échos. Quand l'obésité progresse, que le rendement des terres agricoles chute, que la pollution grimpe, que le monde agricole a de plus en plus de mal à vivre de son travail, dit Faber, c'est qu'il est temps de changer de modèle. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la composition et à l'origine des produits, tout comme au comportement des entreprises. Fin de citation. C'est ici que chez un grand patron, la pensée guide l'action et ce n'est pas un hasard.
Parce que le besoin de penser, Claude, est dans tous les journaux.
Et dans cette fin de semaine, Nicolas, on a dans toute la presse des recherches de sens, un besoin de compréhension d'un monde qui nous force à bouger. Le Point va s'interroger sur ce qu'est l'apprentissage au temps de l'intelligence artificielle. L'Humanité débat de Paul Ricoeur, le philosophe qui inspirerait le président
ce
Macron.
Ce lapsus magique Paul Rigueur.
Pas faux. La croix, le quotidien catholique, au moment où commence l'Avent nous invite aux vertus de l'attente. Et Philosophie Magazine, et là c'est passionnant, consacre tout son dossier de une à la difficulté du changement. Il faudrait se libérer de nos automatismes, nous dit le philosophe allemand Peter Sloterdijk, et il faudrait aussi se méfier de l'honneur au sens de la gloriole, de la richesse et du plaisir du sens. C'est ce que nous disait il y a des siècles Spinoza, qui pour trouver une vie nouvelle voulait chercher trouver un objet qui serait un bien véritable. Trouver un bien véritable pour durer, la sagesse, en autant en manque d'écologie, est éternelle.
Allez, on termine avec un philosophe bouddhiste dans le Figaro.
Mathieu Ricard, l'ami du Dalai Lama, il prend la défense de sa foi contre ces bouddhistes qui persécutent les Rohingyas musulmans en Birmanie. Le Bouddha, dit Ricard en citant le Dalai Lama, aurait défendu les musulmans. Et il ajoute, Mathieu Ricard, les généraux birmans bouddhistes persécutent des musulmans, mais leurs actes sont en contradiction flagrante avec les enseignements du Bouddha. Dès l'instant où un moine tue un être humain ou ne fait même qu'inciter quelqu'un d'autre à le tuer, il est immédiatement déchu de ses vœux monastiques. Belle, forte, juste parole, mais qui nous en rappelle d'autres? Celles que l'on entend quand on veut séparer l'islam des atrocités commises en son nom par des terroristes. Mais cette distinction-là, souvent symbolisée par le mot « pas d'amalgame », est parfois vilipendée. Curieusement, elle est vilipendée dans le même journal, le Figaro, par son chroniqueur récurrent Ivor Youfol, qui, à deux pas du texte de Ricard, dit ceci à propos de l'attentat récent dans le Sinaï. « Dédouaner l'islam de toute responsabilité est une insulte pour ceux qui ont été assassinés au nom d'Allah », ceci tout près de la supplique de Ricard. La contradiction est féconde dans le Figaro, mais il est des éditorialistes qui pourraient, avec profit, lire leur journal.
Oui, la page d'à côté. Merci Claude Askolovitch.